remarqué que ma présence parmi vous est toujours accompagnée assez souvent de manifestations sur la place d'Italie. Et alors aujourd'hui, il se dirige terminus place de la Nation, et je dois rejoindre mon église qui est justement dans le quartier de la Nation. Alors, je trouve ça amusant. J'ai beaucoup de joie de me trouver parmi vous, et j'ai pensé au Notre Père parce que nous sommes dans un temple luthérien, et depuis plusieurs années que j'ai l'honneur de partager avec vous certains cultes, je me suis souvenu qu'on terminait toujours, selon la liturgie luthérienne, et bien par l'énoncé du Notre Père. Et je pense que ce serait intéressant qu'on puisse aborder quelques aspects du Notre Père. Je ne prétends pas aborder tous les aspects dans le sens de toutes les implications de chaque phrase qui constitue le Notre Père, mais au moins d'en voir certaines. Vous savez, Notre Père est précédé par ces propos du Christ qui dit à ses disciples en priant, verset 7 du chapitre 6 de Matthieu, « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. » Et pour avoir retrouvé dans mes recherches des prières prononcées dans les temps antiques, je n'ai pas reproduit là sur mes papiers c'est une des prières, mais c'est vrai qu'on n'imagine pas comment les païens pouvaient s'adresser à leur divinité, mais c'était quelque part très alambiqué, c'est-à-dire il y avait beaucoup d'adjectifs glorieux pour des déesses ou des dieux, et puis ils aboutissaient enfin en disant « si tu peux m'exaucer ». C'était énormément de paroles quelque part pour ne rien dire, des flatteries vis-à-vis de leurs idoles en quelque sorte. Ce qui est frappant dans le Notre Père, c'est d'abord la concision. Notre Père qui est aux cieux. Alors, évidemment, le Dieu de cette prière, il est Père, et c'est une révolution dans les relations avec Dieu, de prétendre pouvoir appeler Dieu son Père. Ça nous paraît pour nous assez courant, mais si on se replace à l'époque à laquelle le Seigneur Jésus-Christ a donné cet enseignement, c'était impensable de s'adresser à n'importe quelle divinité, mais en particulier pour les Juifs, au Dieu d'Israël pour l'appeler Père. Pourtant, lui-même se présentait comme le Père de la nation d'Israël, mais il y avait une telle distance au travers de l'enseignement des rabbins que c'est révolutionnaire quand Jésus dit « c'est ainsi qu'il faut prier notre Père ». Et pour nous, c'est une joie particulière de pouvoir appeler Dieu Père, parce que ça donne une relation directe avec le Tout-Puissant. Il n'y a pas d'intermédiaire. Quand on a l'autorisation par le Christ, notre Sauveur et Seigneur, l'autorisation d'appeler Dieu son Père, son Dieu et Père, l'appeler Père, mais c'est une prise directe, c'est une relation directe, qui explique déjà le type très intime de relation que Dieu veut développer avec ceux qui vont lui faire confiance. Et il est évidemment aux cieux. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans une nébuleuse comme les païens pouvaient le penser, il est situé, si je puis me permettre de dire les choses ainsi, aux cieux. C'est-à-dire géographiquement parlant, il est situé, et en même temps, bien évidemment, comme vous le savez, Dieu est au-delà des cieux, hein, puisque les cieux des cieux, on peine à le contenir, donc... Mais cette précision de dire que le Dieu qu'on invoque est aux cieux est très importante. Le Père est un Dieu de parfaite bonté, notre Père nous le révèle, juste, mais en même temps dont la générosité s'étend aux injustes. C'est très intéressant de voir la structure de notre Père où apparaissent déjà ses vertus, ses qualités de pardon et de compassion. L'appeler Père, c'est aussi exprimer sa confiance en celui qui voit dans le secret et qui sait tout. vous en avez certainement conscience, mais ce face-à-face avec Dieu, dans le secret de sa chambre, parce que venir dans le secret de sa chambre s'adresser à Dieu, c'est en quelque sorte s'ouvrir au regard de Dieu. Vous savez combien c'est difficile les relations humaines pour véritablement s'ouvrir les uns vis-à-vis des autres, pour se partager. C'est difficile. On met un temps avant d'arriver à partager vraiment des choses. Pourquoi ? Parce que le regard de l'autre peut être un. Et je connais des chrétiens qui, au début de leur vie chrétienne, avaient quelques difficultés à s'adresser à Dieu, parce qu'ils me disaient, mais c'est impressionnant. Effectivement que c'est impressionnant, puisque Dieu sait tout. Et venir devant lui dans un lieu de prière, le secret de nos chambres, c'est se laisser sonder, c'est se laisser voir, c'est évidemment se laisser pénétrer d'une manière particulière. Sachons toujours, n'importe comment, que même si nous ne laissons pas à Dieu, ou pensons ne pas laisser à Dieu la possibilité de nous sonder, ça ne nous gêne pas, il passe son temps à nous pénétrer, à nous connaître parfaitement. Donc, présentons-nous à lui en toute confiance, parce que n'importe comment, même si on essaye de lui échapper, il sait. Il sait déjà d'avance ce qui nous habite. Alors, s'il est aux cieux, c'est qu'il ne fonctionne pas comme les grands de la terre, qu'il n'est pas accessible aux arguments terrestres. Je vous le disais, chantage, flatterie, marchandage dans les prières antiques, c'est très intéressant de voir comment un païen va s'adresser à ses idoles. Et en plus que Dieu n'a pas les limites des humains, même des tout-puissants, c'est-à-dire des tout-puissants humains, des rois, des empereurs. En même temps, il est essentiel pour les disciples que nous sommes de savoir qui nous prions. C'est pour ça que le Seigneur précise notre Père qui est aux cieux. Ce n'est pas la prière en soi, dans le fond, qui compte, mais c'est la prière adressée au Père céleste. On n'adresse pas nos prières à n'importe qui. Et les Saintes Écritures nous donnent ce qu'on appelle la théologie de la prière dans la Bible. On s'adresse toujours à Dieu, le Père, dans le nom de Dieu le Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, sous l'inspiration du Saint-Esprit. On ne prie jamais autrement dans les Saintes Écritures. Il y a une chronologie, il y a une doctrine de la prière. Et c'est très important pour avoir une relation équilibrée avec Dieu et ne pas se tromper. On s'adresse toujours dans les Saintes Écritures à Dieu le Père. Dans le Nouveau Testament, par l'intermédiaire de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, sous l'inspiration du Saint-Esprit. Il est vrai en même temps que quand on s'adresse au Père Céleste, il est peut-être difficile de s'affranchir des expériences humaines et familiales négatives. On n'a peut-être pas tous eu des relations simples avec nos parents. Personnellement, j'ai eu la chance d'être aimé, tant par mon père que par ma mère. Donc pour moi, je n'ai pas de difficulté particulière à m'adresser à Dieu comme père. Mais je connais des sœurs et des frères en Christ qui ont connu bien des soucis, bien des difficultés avec leurs parents, qui n'ont pas été aimés ou désirés ou qui ont été malmenés. Et du coup, ça crée comme un frein quelque part. Hein. Ils me disent, l'image du père, quand je prononce le mot père, je pense au mien. Quoi. Et là, il y a donc en tant que chrétien, quelque part, un effort à faire hein, pour distinguer la personne de Dieu, le Père, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est un Père parfait et aimant, d'éventuellement une image paternelle négative. Et c'est pour ça qu'on peut dire que le Notre Père n'incite pas à s'appuyer sur notre expérience familiale humaine pour prier le Père Céleste, mais elle nous invite à le prier sur les fondements même de la révélation de Dieu contenu dans la Bible. Que ton nom soit sanctifié. Appliqué au nom de Dieu, sanctifié, ça signifie reconnaître comme saint. Que le nom de Dieu, donc Dieu lui-même, soit connu et reconnu tel qu'il est réellement. Et voilà le sens du Notre Père, que ton nom soit sanctifié. C'est-à-dire qu'on prenne conscience que quand on s'adresse à Dieu, on s'adresse à un Dieu parfaitement saint. Je me permets de vous dire ça parce que dans les milieux évangéliques qui sont les nôtres, ce sont des choses que nous connaissons. Maintenant, il y a un pas entre la connaissance et le vécu. Ce n'est pas parce que je sais que naturellement je vais prendre conscience devant qui je me trouve quand je me mets à prier. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a dans les Saintes Écritures une série d'attitudes physiques qui nous sont révélées, autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau, sur la façon, la manière, et aussi les propos d'ailleurs, la manière dont notre Seigneur Jésus-Christ s'adressait à son Père. Il savait à qui il s'adressait, il ne se présentait pas n'importe comment, de n'importe quelle façon, à Dieu, son Père. La demande, elle paraît bien universelle, hein, que le nom de Dieu soit reconnu par tous et sanctifié par tous, donc que tous reconnaissent le vrai Dieu tel qu'il est, unique dans l'univers, et donc se tournent vers lui. C'est ça aussi l'aspect de que ton nom soit sanctifié. Mais l'Ancien Testament nous montre que c'est le peuple de Dieu qui est le premier concerné par cette demande. C'est lui qui est au premier rang de ceux par qui Dieu va sanctifier son nom. Et paradoxe, c'est aussi lui, le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament, mais ça pourrait être le cas des chrétiens du Nouveau Testament, c'est aussi lui qui peut vivre un paradoxe, qui a tendance à profaner ce nom. Si je lis dans Ézéchiel chapitre 36, verset 23, voilà la déclaration de Dieu qui dit par la bouche de son prophète, « Je sanctifierai mon nom, qui a été profané parmi les nations ?» Mais qui a profané le nom de Dieu parmi les nations? Dieu le précise, il dit que vous avez profané au milieu d'elle. Voilà qu'Israël a profané le nom de Dieu au milieu des nations. Et nous pouvons, nous, en tant que chrétiens, sans le vouloir, ou parfois volontairement, hélas, profaner le nom de Dieu au milieu des païens. Parce que les païens nous regardent. Ils savent que nous sommes chrétiens. Et du coup, comme on va le voir, ça engage à certaines choses. Et Dieu, de continuer dans ce verset 23 d'Ézéchiel 36, « Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur, l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. » Donc vous voyez le rôle du témoignage de chacun d'entre nous et des communautés que nous représentons. Dans notre vie, nous avons de très nombreuses préoccupations de tous ordres, et il convient que la préoccupation spirituelle ait une place à part. Être chrétien, c'est se préoccuper d'autre chose que du quotidien. Alors ça aussi, ça peut paraître banal, mais quand même, il est bon de le rappeler. D'une part, on doit se préoccuper des choses de Dieu, donc de l'invisible, de la qualité d'une vie spirituelle, de valeurs et d'idéaux. Nous ne sommes pas, nous chrétiens, des consommateurs de tous les biens que la société peut nous fournir, ou de la philosophie que la société développe dans ses propos. Nous sommes un peuple élu, appelé à sanctifier le nom de Dieu, donc nos préoccupations, Dieu va faire en sorte qu'elles soient différentes. Et nous devons nous veiller à quelles sont nos préoccupations au quotidien. Il faut donc que cette réalité de Dieu dans nos vies ait une place de choix, que la préoccupation de Dieu soit d'un autre ordre, pas une parmi d'autres, mais qu'elle ait un statut spécial. Peut-être est amené, quand on se réveille le matin, à se dire tout de suite, je suis chrétien. Ce qui va donner une connotation extrêmement précise à toute notre journée. Je suis chrétien. Ça veut dire que le premier regard que je pose quand je me réveille, c'est je suis un enfant de Dieu, prêt à témoigner par ma façon d'être, mes propos, toute ma journée, un chrétien. Dieu doit être notre préoccupation ultime, a écrit un théologien qui s'appelle Tillich, théologien allemand. La préoccupation des préoccupations, dit-il, celle qui est au-dessus de toutes les autres et qui conditionne les autres. Et ce qui est remarquable, c'est que si on prononce tous les matins une simple prière du style « Seigneur, je veux aujourd'hui vivre pour toi », l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, va développer dans nos cœurs et nos pensées, dans nos âmes, cette réalité. On va devenir sensible à cette préoccupation. Tous les matins, si on se met à demander à Dieu parmi toutes les demandes que nous sommes amenés à formuler, pour nos amis qui ont des problèmes de santé, dont les noms ont été cités tout à l'heure dans le cadre des annonces, si en plus on rajoute « Seigneur, aujourd'hui, je veux vivre pour toi », vous allez voir comment, et vous le savez par expérience, comment le Saint-Esprit est capable de nous rappeler ces choses et de nous les faire vivre. C'est surtout ça qui est important, c'est qu'il est capable de nous les faire vivre. La préoccupation ultime du nom de Dieu n'est pas là pour annihiler toutes les autres préoccupations ou nous faire renoncer au monde dans son ensemble. Vous le savez, il n'est pas question d'aller s'enfermer dans un couvent pour les femmes ou les sœurs en Christ ou un monastère pour les hommes, non. Mais cette préoccupation ultime du nom de Dieu, elle est là pour les organiser, ces autres préoccupations, et leur donner leur sens propre. Je crois que vous avez déjà dit cela il y a quelques temps ou années. J'avais vu un reportage sur un Quaker américain. Et ce Quaker, qui était un homme de 30 ans, un beau visage, des yeux bleus, épanoui cet homme-là, et il expliquait au journaliste qui lui a posé la question suivante, mais c'était un agriculteur. Et alors le journaliste lui dit, mais vos cousins Amish, puisque les Quakers et les Amish sortent du même mouvement qui s'appelle les Mennonites, hein, du mouvement Mennonite, et alors il leur dit, mais eux n'utilisent pas les tracteurs à moteur diesel, hein, et vous les utilisez, mais vous rajoutez des roues en bois. Vous enlevez les roues en caoutchouc, là, avec les pneus, et vous mettez des roues en bois. Et voilà que cet homme, ce chrétien de 30-35 ans, il dit, ben oui, parce que, à la différence de nos cousins Amish, nous voulons non pas rester à la lampe à pétrole, etc., mais utiliser le matériel moderne, mais nous ne voulons pas être emportés par la vitesse du matériel moderne, c'est-à-dire de la rentabilité, du travail toujours plus important sur des surfaces toujours plus grandes. Alors il dit, pour ralentir cette machine qui nous rend beaucoup de services, qui est plus efficace qu'un cheval, eh bien nous freinons cette énergie mécanique par des roues en bois. Et alors il avait une théologie de son agriculture, cet homme-là. Il avait un sens. Et il disait toujours, Dieu a créé le temps. Il ne faut pas s'amuser à sortir quelque part, à oublier cette vérité. Et c'est très intéressant comme témoignage, quoique ne vivant pas comme eux, je me dis, c'est intéressant, cette éthique biblique, enfin, biblique chrétienne, on va dire, c'est plus souple, cette éthique chrétienne qui fait qu'on réfléchit à tout par rapport à Dieu. Et dans le fond, c'est ça l'important, est-ce qu'on réfléchit à tout par rapport à Dieu. Que ton règne vienne, verset 10, le règne des cieux, quelque part, il est proche. Parce que quand Jésus prononce cette prière, il est l'incarnation du règne de Dieu. Il est là. Hein, quand Jésus s'adresse aux pharisiens et leur dit « Le royaume de Dieu s'est approché de vous. » C'est lui. Et alors c'est très intéressant de penser ainsi. Le règne des cieux est proche puisque en Jésus il est présent, il est venu. Et la seconde demande du Notre Père est donc déjà en train de trouver une réponse. puisque ce royaume des cieux est incarné, ce royaume de que ton règne vienne, il est incarné dans la personne de Jésus-Christ. Ce qui veut dire qu'il s'agit non seulement de demander ce qui est déjà là, c'est-à-dire de se convertir au Christ, mais aussi de demander une plus grande proximité du royaume des cieux. C'est-à-dire que nous ayons une plus grande intimité avec Dieu, avec le royaume des cieux, pour être témoin sur cette terre. Vouloir que le règne de Dieu vienne sur la terre, c'est tout simplement souhaiter que Dieu soit de plus en plus reconnu comme roi, qu'il soit respecté, écouté, obéi, et que ce soit lui qui gouverne effectivement la plus grande partie possible du monde. Que ta volonté soit faite, dire que ta volonté soit faite, juste après avoir dit que ton règne vienne, c'est laisser à Dieu le choix de la manière dont il fera venir son royaume. Vous savez que vous et moi, parfois, on pourrait se dire, mais Dieu devrait agir comme ci et comme ça, ce serait beaucoup plus simple. Non. Que ta volonté soit faite, c'est respecter, même si on ne comprend pas, et les délais et la manière que Dieu a d'agir, eh bien, c'est de faire confiance à Dieu, et c'est donc de laisser à Dieu le choix et de la manière dont il fera venir son royaume. Non pas par des moyens humains, ni selon des voies humaines, mais, par exemple, comme nous allons le fêter pour vous le 23 décembre, c'est le 23 ou 22. Eh bien, la naissance d'un enfant. Voilà que le royaume de Dieu manifeste au travers de la naissance d'un enfant de la façon la plus simple. Toutefois, sur la terre, la volonté de Dieu rencontre des obstacles, nous le savons, d'où la nécessité de la prière. Le croyant, le juste, dans le sens biblique du terme, en revanche, se soumet à la volonté de Dieu. La réalisation de la volonté de Dieu sur la terre suppose donc l'obéissance des chrétiens. Mes frères et sœurs, quand nous allons réciter le Notre Père dans quelques minutes, n'oublions pas que c'est un appel à notre obéissance. Car c'est nous les vecteurs, Dieu l'a voulu ainsi. C'est nous, les chrétiens, qui sommes les vecteurs de la manifestation du royaume. Donne-nous notre pain, cette demande est la demande du pèlerin qui a besoin jour après jour de la nourriture qui le soutiendra dans sa marche, comme la manne du jour correspondait à ce qui était nécessaire pour le peuple hébreu dans le désert. Quand Jésus dit « Donne-nous notre pain de ce jour », les disciples pensent que Dieu est capable, parce qu'il l'a fait avec Israël dans le désert, de fournir la manne tous les jours. La nourriture, elle est indispensable pour les êtres vivants, et en ce sens-là, elle est presque banale, cette demande. Banale parce que l'acte de se nourrir revient et se répète tous les jours. Presque banale. Parce que si la nourriture fait défaut, c'est la fin de notre existence. Et nous qui sommes dans des pays riches, on peut avoir de tout, la demande est banale aussi à cause de sa simplicité. Ni superflu, ni provision pour l'avenir. Les demandes des biens terrestres dans cette prière sont très limitées. Comme je vous l'ai dit, ni réussite, ni richesse, mais l'équilibre. C'est ce qu'on trouve en Proverbe, chapitre 30, verset 8. « Ne me donne, dit l'auteur du Proverbe, ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi seulement ce qui m'est nécessaire pour vivre. » Et c'est ce que l'apôtre Paul va pouvoir déclarer si nous avons le vêtement et le manger, n'ont pas besoin d'autre chose. Concernant la personne qui prie ainsi, la demande est révélatrice de deux aspects fondamentaux. D'abord, quand on prie ainsi, c'est la confiance qui se manifeste. La confiance, car ne pas demander d'avance, c'est se confier au Père Céleste pour chaque jour. Nous, on a peut-être une difficulté à expérimenter ces choses comme les hommes et les femmes des temps jadis. C'est que nous, on a des congélateurs, on a des comptes en banque, on a des endroits où on peut stocker de la marchandise. Et du coup, on perd quelque part un petit peu dans ce monde-là, en France, on pourrait perdre cette notion de la proximité de Dieu et de la dépendance de Dieu pour le quotidien. Notre Père est une prière d'humble confiance pour l'avenir, face aussi à l'incertitude de ce qui nous attend à titre personnel. Ça s'appelle donc la confiance et la dépendance à l'égard de Dieu, y compris pour l'ordinaire de l'existence. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. On peut dire qu'il n'est pas étonnant que la prière modèle donnée par le Christ mentionne le pardon, qui est le point central de sa prédication et une part importante de la bonne nouvelle de l'Évangile. Il y a en effet ces deux dimensions dans le message de Jésus. D'une part, nous sommes pardonnés par Dieu, selon un effet de sa grâce, et d'autre part, il nous invite à nous pardonner les uns les autres. Le Dieu du Notre Père est un Dieu qui veut, qui peut et qui veut pardonner. C'est parce que Dieu nous aime que nous pouvons aimer. C'est parce qu'il nous a pardonné que nous pouvons pardonner à notre tour. On ne peut vraiment pardonner que si l'on se sait pardonner. Dans la première épître de Jean, chapitre 4, il est dit « Pour nous, nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimés le premier. » Et Paul va dire également dans l'épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 13, « De même que le Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Ne nous soumets pas à la tentation. La tentation ou l'épreuve, c'est un lieu de difficulté. Et dans les deux dernières demandes sur la tentation et le mal, celui ou celle qui prie reconnaît la souveraineté de Dieu qui peut conduire sur le chemin de l'épreuve, comme le montre la tentation de Jésus dans l'évangile de Luc, mais qui peut aussi délivrer du tentateur. Dieu peut nous conduire sur le chemin de l'épreuve, mais il peut aussi nous délivrer du tentateur. Donc il faut avoir cette discernement de savoir ce qui est en train de se produire chez nous. Est-ce qu'on est conduit dans une épreuve de la vie ou est-ce qu'on est sous la pression du tentateur pour commettre un péché? Et là, ça va nous aider dans notre prière à demander à Dieu cette délivrance. Et dans les deux cas, il est présent pour nous aider. Dans la Bible, aucun événement n'échappe à Dieu, ce qui veut dire que tout peut être attribué à son action. Même si la théologie biblique distingue sur la base des textes ce qu'il fait et ce qu'il laisse faire. Parce qu'il y a des choses que Dieu fait et il y a des choses que Dieu laisse faire mais qu'il ne fera jamais. Par exemple, Dieu ne tente personne. Pourtant, l'affirmation de la souveraineté de Dieu ne conduit pas le croyant à la passivité. C'est-à-dire que nous ne sommes pas comme les musulmans en train de dire « tout est écrit d'avance, c'est le mektoub, c'est écrit, ça tombe comme ça ». Non, pas du tout. Souveraineté de Dieu et action du croyant, obéissance du croyant sont un tandem qui fonctionne parce que Dieu demande... Le chrétien demande de ne pas être soumis à la tentation et à l'épreuve, et s'il se trouve pris dans les griffes du mal, il va demander la délivrance. Il ne va pas rester sans demander l'intervention de Dieu. On retrouvera la même demande dans le jardin de Gethsémané, dans la bouche de Jésus. « Mon Père, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi. » Et puis Jésus de dire « Veillez et priez afin de ne pas entrer dans l'épreuve. » Cette prière montre que nous ne sommes pas invités à chercher l'épreuve, mais que nous devons nous remettre entre les mains de Dieu si nous traversons cette dernière. Ne nous soumets pas à la tentation, c'est aussi une réflexion qui est intéressante. Il n'est pas nécessaire d'imaginer strictement une tentation au sens classique, avec possibilité de passage à l'acte. Nous pouvons être tentés par notre propre convoitise, comme dit l'épître de Jacques, hein, et puis succomber au péché. Tentation et péché, c'est d'ailleurs pas la même chose. Qu'un chrétien soit tenté, c'est assez quelque part, c'est prévu dans les Saintes Écritures. Qu'un chrétien pêche, ça c'est autre chose. Mais le Christ a été tenté en toute chose sans commettre de péché. Donc ne mélangeons pas tentation et péché quand on est face à un événement. Ça peut simplement être une tentation. Et là, il faut s'armer dans la prière pour pouvoir résister et faire face à cette situation. Mais il y a des situations difficiles qui peuvent correspondre à l'épreuve tentation dont parle notre Père, même si aucune convoitise n'est en jeu. Je connais une chrétienne veuve avec un garçon de 18-19 ans qui, elle découvre qu'il se drogue. Et ça, c'est une situation actuelle, et elle est dans une épreuve terrible, cette sœur. Parce que c'est plus un enfant de 12 ans, c'est un jeune homme, 18-19 ans. Et puis, elle est obligée d'aller dormir chez une voisine, enfin, parce qu'il est violent quand il n'a pas sa dose. Enfin, vous voyez, c'est véritablement une épreuve. Et il n'y a pas de convoitise particulière, là, c'est autre chose. Donc, quelles que soient les situations, tournons-nous vers le Seigneur pour obtenir son aide. Car c'est à toi qu'appartiennent la puissance et la gloire. Hein, il est dit, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles règne la puissance et la gloire. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la conclusion, ça s'appelle la doxologie en théologie, du terme doxa qui signifie la gloire. Et une doxologie, en règle générale, ça rappelle des points de doctrine fondamentaux sur la personne de Dieu. Et là, c'est le cas. Il est, comme vous le savez, le maître de tous les siècles. Il règne, il a la puissance, et évidemment, il est le seul à être glorieux. Pour conclure, dans ces trois premières requêtes, notre Père nous ouvre une perspective missionnaire. Que ton nom soit sanctifié, première requête, que ton règne vienne, deuxième requête, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, troisième requête. Ça ouvre une perspective missionnaire. La deuxième requête, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, vient nous interroger, nous, comme je vous le disais tout à l'heure rapidement, en tant que croyants. Vient nous interroger sur notre vie de croyants, et en particulier sur notre spiritualité, la manière dont nous développons notre relation avec le Seigneur Jésus-Christ. De plus, la première requête, que ton nom soit sanctifié, pose la question d'une éthique missionnaire, puisque le nom soit sanctifié sur toute la surface de la terre. Le Notre Père implique une spiritualité missionnaire, c'est-à-dire une dimension au témoignage autour de nous. La familiarité des croyants avec le Notre Père ne doit pas faire oublier son caractère de prière, de disciple, c'est-à-dire un disciple engagé et actif. Ceux qui prient ainsi prennent position par rapport aux événements. Hein, quand on est au milieu des amis, des collègues, de la famille non chrétienne, il y a des choses à dire avec intelligence, avec douceur, avec perspicacité, mais il y a des choses à dire. Donc par rapport aux événements, face au royaume de ce monde, aux puissances politiques de ce monde, au mal, à ses puissances, les puissances du mal qui se manifestent de différentes manières, et puis au matérialisme. Voilà comment nous serons des disciples engagés et actifs, et voilà comment nous pouvons faire avancer le royaume de Dieu, sanctifier son nom et faire reconnaître Dieu pour ce qu'il est. Le roi absolu de l'univers. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Amen.